Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Les Voisines. Vous êtes avec moi-même, Émilie et Thomas ce soir.
Bonsoir.
Petit comité, vous commencez à avoir l'habitude. J'espère que tout le monde va bien. Passe encore une fois un bon début d'année, parce que on est toujours en début d'année pour ma part. Février, c'est le début d'année.
Oui, si on veut, mais.
Même si je fonctionne par cycle scolaire toujours dans ma tête, donc c'est un peu bizarre. Bref, j'espère que tout le monde va bien.
Oui, tout va bien.
Petit sujet de chill aujourd'hui. D'où ma voix posée. Ce ton lent et doux. On va parler de séries. Il me semble qu'on l'avait déjà fait il y a 2 ans, mais j'avais envie de le refaire.
On avait parlé de cinéma il y a 2 ans.
Non. On a parlé de cinéma il y a 1 an, et moi je te parle d'il y a 2 ans. C'est fou de pas m'écouter comme ça.
Pardon.
Merci. Donc on va parler de séries, et on va commencer directement par ma petite habitude de parler par ordre chronologique de vécu. Je vous parlerai aussi un peu de l'histoire des séries, parce que je me suis un peu renseignée du coup sur quand comment ça a existé, etc. Mais okay, on fera ça dans une deuxième partie. Thomas, du coup, toi, quand est-ce que t'as découvert les séries? Vers quel âge? Avec quelle série?
J'ai découvert les séries avec... Ah, je résonne de fou, mon micro
on est sur un setup qui n'est pas le même que d'habitude, il y a des travaux
exactement
dans le grand studio.
J'essaye de regarder, hein, ne bougez pas, j'essaye de voir comment est-ce que ça peut bien fonctionner. Et du coup, moi, je te dirais que ma découverte des séries, c'était avec un logiciel qui s'appelle KakaoWeb. Bien sûr, mais attention, parce que c'est pas très très légal, ne faites pas les amis.
Enfin, tout le monde connaissait à l'époque. Hein.
Oui, tout le monde connaissait à l'époque, effectivement, qui était un logiciel de
piratage.
De piratage. Il y a du bruit en bas, il y a du monde en bas. Hein. Oui. Ça, voilà, je vous le dis, hein, comme ça. Logiciel de piratage, effectivement, mais en ligne. Il fallait pas télécharger. C'était sur des serveurs et comme YouTube, en fait.
Ah, c'était pas. Oui, c'est ça. C'était la particularité de KakaoWeb, là où d'autres avaient Emule, et qui là, il me semble, était un logiciel.
Oui.
Donc du coup, KakaoWeb.
KakaoWeb, donc j'ai commencé, je crois que la première série que j'ai regardée, c'était The Walking Dead.
Ah ouais? La toute première?
Ouais, je crois. Ouais.
Toute première série que tu découvres tout seul par toi-même en plus?
Ouais, c'est ça, ouais.
T'as pas découvert avec des potes ou tes parents?
Non, à la limite, ou sinon des petites séries de la télé, genre Nos Chers Voisins, ou... ça remonte encore plus loin, tu vois, mais... des trucs comme Samantha Oops, à l'époque, bien sûr.
Samantha Oops,
Samantha et Chantal. Oh non, j'ai une anecdote, mais c'est pas vraiment
à ce moment-là, on peut revenir sur des choses très loin.
C'est pas vraiment une série, mais ma première souvenir de programme court de télévision, c'est le service après-vente des émissions de Omar et Fred.
Oui, bah oui.
Et que je descendais dans l'escalier, j'essayais de que l'escalier ne craque pas, parce que depuis l'escalier, on pouvait voir la télé. Et à chaque fois que j'entendais le jingle, parce que mes parents regardaient le Grand Journal à l'époque, sur là où était diffusé Omar et Fred, et alors, dès que j'entendais le jingle là, de service après-vente, des émissions, je courais tout doucement dans les escaliers pour regarder, puis parfois je me faisais cramer, donc j'entendais me coucher, parfois je me faisais pas cramer, et ça c'était bien.
Le coquin. Ouais. Le coquin. Mais donc du coup, et tu disais première vraie série, toi, conscient de ce que tu faisais et de ce que tu regardais, Walking Dead.
C'est Walking Dead.
T'as attaqué fort, hein.
J'ai attaqué
fort. T'avais quel âge?
J'avais, je vais avoir 13 ans, à peu près, ouais, je crois, ouais. Un truc comme ça. Voilà. Et puis après, dis-toi que je me suis pris un abonnement aux plateformes de streaming. Mon premier, c'était Netflix, et c'était en 2020.
Bah, c'était tard du coup.
Oui, c'était tard. C'est pour ça que avant, j'étais que sur KakaoWeb.
Ah oui. Oui, bah oui, mais parce qu'effectivement, c'est aussi à peu près vers 2020 que tous les sites de streaming, ça, ont commencé à disparaître. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, moi, du coup, j'ai découvert les séries au sens vraiment regarder des séries de manière choisie, quotidienne, etc. Parce que sinon, évidemment, comme tout le monde, pareil, ma famille d'abord, Friends, des épisodes des Simpsons, enfin bref, par-ci par-là, voilà, t'es devant la télé, tu regardes, parce que papa, maman, ils ont dit que tu regardais, et tu vois ce qu'il y a, Charmed aussi, j'aimais bien Charmed.
Moi j'étais pas, les Simpsons à la limite, mais tout ce qui était série en live action et tout ça, non, je regardais pas.
Ah ouais, non, si, on regardait plein de trucs, même, c'était sur, c'était que sur quoi, sur la 11, je crois, je sais plus comment s'appelait cette chaîne.
C'était NT1, et maintenant c'est
ouais,
TFX.
Ouais, exactement, NT1, waouh, et bah, il y avait des séries des années 90 et tout, mais ça sert à rien ce que je vous dis là, parce que j'ai complètement oublié comment ça s'appelait. Mais bref, c'était des séries un peu policières, aventures avec deux mecs. Je sais plus ce que c'était. Bon, bref, regardez ça beaucoup. Ah, si, attends, c'était quoi? Il y avait un truc avec Cobra dedans.
Ah, bah, c'est. Oui, alerte. Non, pas alerte Cobra.
Si, c'était ça, je crois.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Bref. Mais donc, la première vraie série que j'ai consommée, regardée et découvert, donc le. Ah, en fait, il y a une histoire, on suit. C'était Desperate Housewives avec ma mère. Quand j'avais. J'étais petite, hein, je sais plus trop quel âge j'avais, je sais plus si j'étais déjà au collège ou. Mais pour moi, j'avais 12 ans, 10-12 ans, un truc comme ça. Okay. Ouais, je devais être en 6ème, un truc dans le genre. Donc, Desperate Housewives, énorme succès à l'époque. Donc voilà, d'où le fait que ma mère s'était mise à regarder ça aussi. Et c'est la première série du coup que j'ai regardée vraiment, en sachant que quand même, c'est une série qui est longue, hein, y a 8 saisons. Donc, bon, à l'époque, elles n'étaient pas toutes sorties. Mais ouais, c'est ça qui m'a fait plonger dedans, et ensuite du coup j'ai été par moi-même, je sais plus trop comment, mais ça devait être, ouais, ça devait être ça, parce que ça devait être que un ou deux ans après que j'ai eu mon premier ordinateur, ouais, ça devait être ça, parce que j'ai eu mon premier ordinateur à moi à 14 ans, et donc là je pouvais, évidemment, avec l'autorisation quand même de mes parents, mais je pouvais regarder ce que je voulais dans ma chambre, et donc là j'ai regardé The Vampire Diaries, j'ai regardé... Pretty Little Liars, j'ai regardé sur des sites de streaming.
Ah, okay.
Et moi, ce n'était pas Cacaoweb. Pas mal de personnes me parlaient de Cacaoweb, mais c'était absolument pas Cacaoweb. J'avais plein de sites de streaming divers et variés qui changeaient régulièrement. Avec
c'est parce
les
que t'es quelqu'un d'informatique. Moi, ce que j'aimais dans Cacaoweb, c'est que c'était là et ça ne bougeait pas. C'était là et ça ne bougeait pas.
Vraiment pas du tout. Je tapais le nom de ma série. En plus, je me suis rapidement, parce que j'ai fait anglais euro, en l'option anglais euro, du coup à partir de la quatrième au collège et au lycée, et du coup j'ai commencé à regarder à partir de la quatrième mes séries en anglais, parce que je voulais essayer justement, bah donc, je faisais pas anglais euro pour le coup, parce que mes parents m'avaient forcé, c'était un choix, donc je voulais progresser en anglais, donc j'ai commencé à regarder toutes mes séries en anglais, bah en anglais, et du coup je tapais le nom de la série, V-O-S-T-F-R, parce que quand même fallait pas déconner, fallait les sous-titres, streaming, et je tombais sur des sites, et après au fur et à mesure du coup je voyais qu'il y avait un site en particulier qui revenait beaucoup, parce que c'était un des sites qui regroupait le plus de trucs avec le plus de facilité d'accès aussi, tu sais, c'était les sites où ils avaient plein de liens par épisode.
Oui, bien sûr.
Ils avaient genre 20 liens par épisode, et t'avais de la VF et des VOSTFR, et t'avais plein de liens à des moments qui étaient morts, et il fallait réussir à trouver le bon lecteur qui fonctionnait encore et tout. Bref, voilà, donc ça c'est mon histoire des séries, et ça m'a fait complètement plonger dedans, parce que bah après du coup, ouais, j'ai commencé à suivre des séries qui du coup étaient pas encore sorties en France, qui sortaient aux États-Unis. Game of Thrones, je pense, a été la première série que j'ai vraiment suivie comme ça, voilà. Et ouais, non, j'ai découvert plein de séries, bah beaucoup par moi-même du coup aussi, en juste j'entendais parler de trucs, donc j'allais voir à quoi ça ressemblait. Je me faisais des sessions à des moments aussi de vas-y, je me prends là, je sais pas quoi faire ce soir, je vais regarder 4 premiers épisodes de 4 séries différentes et je verrai avec laquelle j'accroche, et ensuite je vais lancer.
Ah ouais,
dedans.
Tu mélanges tout.
C'est comme ça que j'ai commencé Grey's Anatomy.
Ok.
Parce que j'avais beaucoup d'a priori par rapport à cette série-là, et quand j'ai du coup fait ce truc-là, finalement, je crois que j'ai regardé une autre série avant, un premier épisode d'une autre série, j'ai regardé le premier épisode de Grey's Anatomy, je fais ah bon, en fait c'est pas ce que je pensais, vas-y, tant pis, je regarde pas les deux autres premiers épisodes d'autres séries et je commence. Okay. Bref, donc voilà, grande histoire d'amour de mon côté par rapport aux séries, mais parce que j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup, voilà, que ce soit film, jeux vidéo, séries, livres, voilà, j'ai été grosse consommatrice de à peu près tout à plein de moments de ma vie. Et toi, donc, les séries, quel rapport? Amour, haine, entre deux,
moi,
période.
J'aime beaucoup les séries, mais le problème, c'est que quand je me mets dans les séries, je peux plus voir de films après. Et
parce
ça, ça
que...
me saoule, parce que je prends pas le temps. Et quand je vois une série, je veux absolument la finir et je me mets dedans, tu vois, je suis très très impliqué dans la série.
N'importe laquelle? Parce qu'il y en a, moi je trouve que c'est difficile à accrocher et je les ai consommés vachement plus lentement que certaines autres. Il y en a, j'arrivais plus à les lâcher, je les ai bouffés comme pas possible. Et attention, Thomas ne tombe pas.
J'ai failli tomber de ma chaise. J'étais tellement choqué par ce que tu viens de me dire. Non, bah je suis jamais tombé sur une série. En fait, soit la série je l'aime bien, tu vois, et je m'y accroche, soit la série je l'aime pas plus que ça en fait. Mais généralement, une série que j'aime bien, je veux la terminer, je veux être dans l'univers et je veux rester dedans tout le temps.
Hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Elles sont pensées pour. Hein.
Bah oui, donc. Mais après, je suis un. Alors, je suis un. Pas un grand amateur des séries feuilletons. Ça, j'aime pas forcément plus que ça, les séries télé, vraiment, voilà.
Après... Ça veut dire quoi pour toi, feuilleton? Est-ce que justement, ça tombe bien, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais, comment on dit, définir un peu aussi tout à l'heure, parce qu'il y a plein de noms par rapport à série, feuilleton, sitcom, soap.
Ouais.
Donc voilà, de définir c'est quoi pour toi, feuilleton.
Pour moi, c'est les séries qui sont formatées pour la télévision et pour que tu puisses suivre la série sans avoir vu ceux d'avant, quoi.
Ok.
Pour moi. Après, je sais pas si c'est la... Je sais pas si c'est la définition.
Bah, moi, la définition que j'en ai, c'est pas totalement ça. C'est que c'est un roman feuilleton du 19e siècle qui était publié par épisode dans les journaux, qui ensuite a été repris par la radio dans les années 30. Donc, en gros, c'est une histoire continue découpée en morceaux qui donne envie d'acheter le journal suivant. Donc, du coup, là, qui donnait envie d'écouter l'émission suivante. Et ensuite, qui a été reprise par la télé. De regarder les épisodes suivants. Donc, une intrigue continue, un suspense à la fin de chaque épisode. Et impossible de comprendre, pour le coup, ce qui se passe si tu n'as pas vu les précédents.
Ah, ok, d'accord.
Donc, voilà. La série, au sens strict historique... c'est pas forcément une histoire continue. Dans les années 50-60, c'est souvent des personnages récurrents, mais des épisodes indépendants qu'on peut regarder dans n'importe quel ordre. Donc toutes les séries policières, par exemple. Voilà. Les sitcoms, du coup, on connaît ces 20-30 minutes de comédie. En plus, à l'époque, qui était en général...
Public.
Soit en public, effectivement, avec un public qui réagissait en live. Friends, par exemple, c'est comme ça qu'elle a été tournée, etc. Notamment pour ça qu'il y a aussi eu beaucoup d'improvisation à des moments de, notamment, Matthew Perry, Chandler. Parce qu'il y avait un public en live, quoi. Donc forcément, ça booste un peu plus la réactivité et la créativité et tout. Ou alors, voilà, elle est enregistrée. Et voilà. Et le soap opéra, ça vient de la radio américaine des années 30. Pourquoi soap? Parce que donc ça veut dire savon. Parce que ces programmes étaient sponsorisés par des marques de savon.
Ah,
hilarant, vraiment. Et c'était une diffusion quotidienne avec du coup une intrigue ultra continue du mélodrame et qui était destinée avec un public donc bien visé, les femmes au foyer.
Ok.
Donc c'est les telenovelas en Amérique latine. Elles descendent de ce modèle-là. Qu'est-ce que les soap opéra viennent donc de la radio américaine des années 30. Voilà,
pourquoi
voilà.
Pourquoi c'est sponsorisé par des savons?
Bah parce qu'à l'époque, il leur fallait des sponsors, c'est tout. Je sais pas, dans les années 30, il devait pas y avoir énormément de marques qui voulaient bien sponsoriser, j'imagine, des émissions de radio.
Il n'y avait pas NordVPN?
Non, il n'y avait pas NordVPN, non.
Ok.
Donc voilà. Donc ouais, donc du coup, tu disais feuilleton.
Je disais que moi j'étais plus sur des séries à part entière, on va dire, j'aime bien les séries qui sont pas découpées avec les cliffhangers.
Ouais.
Par exemple, les séries de Vince Gilligan, par exemple.
Donc, Breaking
Bad, voilà. Better Call Saul, et puis très récemment Pluribus.
Mm-hmm.
J'ai adoré Pluribus, incroyable. Et des séries en fait qui refusent le fait de... se cantonner à justement le délire de feuilleton, de vouloir aller voir la prochaine, quoi. Moi j'aime bien quand l'œuvre est la série entière et qu'on te met dans une ambiance et sans aller chercher.
De toute façon, tu sens la différence en termes d'intrigue et de qualité. Enfin, c'est pas du tout effectivement la même consommation, quoi.
Oui, complètement. Et toi alors?
Oui, non, mais moi c'est pareil. C'est pareil, comme je l'ai dit, j'accorde une grande importance à l'histoire, même primordiale par rapport à beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, bah, je vais parler de, d'une série dont on va reparler peut-être un peu, mais qui est le premier morceau... Enfin, ça, pardon, je ne sais plus parler. Le premier morceau qu'on va écouter vient de cette série-là. Enfin, en tout cas, je l'ai découvert et il est emblématique pour moi pour cette série-là. Mais donc, par exemple, la série Lucifer, si certains connaissent, qui est sortie maintenant il y a peut-être 10 ans, qui est donc une série qui parle... du diable qu'on a marre d'être le diable et qui décide de se prendre des vacances à Los Angeles et de faire grève de son métier en gros. J'ai continué parce que mon frère l'avait regardé et qui me disait que c'était vraiment hyper bien en termes d'histoire et tout, qu'il y avait vraiment quelque chose et que c'était pas juste une série policière quoi que ce soit, parce que le format c'est ça, c'est une enquête par épisode. Et j'ai continué malgré le fait que les acteurs au début je les détestais. C'est clairement pas, si tu veux voir du bon jeu d'acteur, c'est pas dans cette série là que tu vas l'avoir. Ils sont pas dégueulasses non plus, hein, mais il y a bien pire. Mais il y a aussi bien bien meilleur. Et j'avais beaucoup de mal au début avec ça, mais comme je me suis accrochée à l'idée qu'il y a une histoire derrière et tout, et j'ai bien fait parce que depuis c'est devenu une de mes séries préférées. Parce que les messages qui sont passés et les sujets que ça aborde sont des sujets qui me touchent énormément moi. L'histoire a primé sur les énormes défauts pourtant qu'il y a en termes de qualité sur beaucoup de choses.
Ok.
Voilà.
Et comment tu pourrais résumer alors, qu'est-ce qui te touche particulièrement dans Lucifer?
Dans Lucifer?
Ouais.
C'est très simple, c'est que c'est une histoire de résilience et une histoire de guérison psychologique. Donc voilà. C'est, tu suis de base Lucifer, ce premier épisode est vraiment ça, hein. Il prend des vacances à Los Angeles et il commence à avoir une psy. Et il commence à avoir une psy, sauf qu'à chaque fois il est tellement égocentré, etc., etc., que tout ce que sa psy lui dit, il n'entend rien, il avance pas, il fait toutes les conneries qu'il veut, et il entend ce qu'elle a envie de dire. Sauf qu'au fur et à mesure de ce qui va lui arriver et de plein de choses, bah en fait on rentre de plus en plus dans le deep et il souffre de plus en plus et tu comprends de plus en plus de choses et lui aussi. Et du coup il commence à faire différemment et à vraiment rentrer dans une thérapie au sens propre du terme, de pas juste aller en thérapie parce qu'il dit qu'il va avoir une psy, quoi. À vraiment avoir un dialogue avec elle.
Ok. Et du coup, dans Lucifer, il y a une musique. Alors.
Du coup, il y a une musique, en effet. Oui, c'est l'ambiance sonore et tous les titres qu'ils ont choisis, parce que c'est quasiment exclusivement que des titres choisis et pas de musique composée, si je ne dis pas de bêtises. C'est énormément de rock, etc. C'est trop trop bien. Et là, du coup, je voulais mettre le tout premier son qu'on entend, premier épisode, introduction de Lucifer. Je vous laisse écouter donc. Ain't No Rest for the Wicked. J'ai oublié l'artiste.
Cage the Elephant.
De Cage the Elephant. I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. Sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. Oh, no, there ain't no rest for the wicked. Until we close our eyes for good. Life, but you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. Oh no, there ain't no good.
taking money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh, yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay. We got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down. We can't hold back, though. You know we wish we could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good.
Et bonsoir à toutes et à tous de nouveau, c'était Ain't No Rest bonsoir. For The Wicked. J'ai encore oublié l'artiste, c'est pas possible.
Cage the Elephant.
Merci, c'est pas si difficile pourtant.
Enfermer les éléphants.
Donc Ain't No Rest For The Wicked de Cage the Elephant que j'ai choisi par rapport à la série Lucifer.
Lucifer.
Donc si vous n'avez pas encore regardé cette série, écoutez, et que le blasphème, enfin j'en sais rien d'ailleurs, je ne suis pas religieuse donc je ne pourrais pas vous dire, il y a peut-être potentiel à, vu que ça parle de ça, que ça reprend quasiment tous les, enfin tout, non j'abuse, mais il y a beaucoup de figures principales de bibliques évidemment, dans, et donc d'interprétation et de réécriture, et etc etc. Mais voilà, c'est il y a beaucoup d'humour aussi, et c'est vraiment, moi je trouve
ouais,
très positif à voir, et ça fait du bien avec beaucoup de messages ouais, encore une fois, de résilience très, très cool et très fort. Okay. Donc on a parlé là un peu de notre rapport individuel à on est où, nous on se situe, comment sur les séries, ouais, donc je vais vous faire un petit point historique maintenant, parce que j'ai regardé donc sur d'où, comment, pourquoi ça a existé.
Donc,
on a parlé tout à l'heure aussi, j'ai un peu différencié donc feuilleton, série, soap opéra, et j'ai oublié le quatrième. Bon bref, vous m'avez écouté.
Sitcom.
Ouais, merci, sitcom évidemment. Et donc on parlait des années 30, etc. etc. Parce que pareil, je vais rappeler un peu au niveau de la télévision, mais... le téléviseur a été commercialisé et a commencé à arriver en fait post-guerre mondiale, donc post-1945.
Ouais.
Parce que avant ça, il y avait quelques petites choses, notamment, je pense que tout le monde a entendu parler des dessins animés, notamment de Disney, que le Troisième Reich avait demandé de faire pour de la propagande nazie, etc. etc.
Oui.
Mais en fait je pense que c'était destiné à ce que ce soit des films qui sortent au cinéma, plus que ce soit des films à la télé comme aujourd'hui on en a l'habitude, parce que à l'époque c'était beaucoup d'expérimentation, très très peu de gens avaient des téléviseurs chez eux. Là par exemple j'ai un chiffre où c'est dit qu'en 1945 il y avait à peu près 6000 téléviseurs aux États-Unis.
Ouais, c'est rien.
6000. Donc c'est absolument rien du tout. Et bim, 9 ans plus tard, mm-hmm. on est sur plusieurs millions de téléviseurs chez les gens, aux États-Unis toujours. Mm-hmm. Donc en moins de 10 ans, enfin en 10 ans quoi. Donc voilà, donc la télévision débarque, et comme la télévision débarque, bah il faut qu'on trouve comment, enfin quoi faire quoi, qu'est-ce qu'on fait sur cette
qu'est-ce
télévision,
qu'on dedans,
qu'est-ce qu'on met dedans, comment les gens vont consommer, etc. etc.
Ouais.
Donc évidemment, outre les journaux, les jeux télévisés et voilà, bah on se dit, bah on va reprendre ce qui se fait à la radio, donc les fameux feuilletons à la radio à l'époque,
ouais.
Et on va faire ça à la télé. On va pas excéder les 30 minutes d'épisode de base, parce que justement on se disait bah, qu'à la radio c'est ça qui fonctionnait, c'était des petits épisodes, et qu'il y avait une grosse question de est-ce qu'on va pas perdre les gens si on fait des choses plus longues, est-ce qu'on va pas perdre l'attention des gens.
C'est la génération TikTok.
Bah, comme quoi tu vois, finalement c'est des questions qui reviennent depuis longtemps, l'attention des gens. Mais ouais, est-ce que les gens vont toujours consommer si on fait des choses trop longues et tout. Donc on va rester sur ce qu'on sait qui marche, c'est-à-dire le format des feuilletons de radio, et c'est uh-huh. comme ça qu'ont commencé à naître les séries télévisées, donc les feuilletons. J'ai regardé aussi à quel endroit du monde, parce que j'avais une idée moi un peu de oui, mais en fait tout vient des États-Unis, mais pas tout à fait, parce que notamment le développement de la télévision, enfin du téléviseur, Ça s'est fait en simultané et en alliance aussi, en coopération entre les pays européens, occidentaux, donc les États-Unis et européens. Mais c'est effectivement aux États-Unis que ça a commencé à avoir la plus grosse croissance au début. Et donc c'est aussi évidemment avec eux que, parce que c'est toujours la même chose, la croissance suit là où ça marche, là pour le coup c'est de la logique, que donc comme ça marchait chez eux, ils ont commencé eux aussi à se spécialiser plus vite sur les séries que les autres pays, et c'est dans les années 50 du coup que la série, les sitcoms et les programmes hebdomadaires ont commencé vraiment à être bien ancrés, etc.
Ok.
Ensuite, on a donc eu, donc ça c'est années 50, donc première série, j'ai des séries que moi je connais de nom à peu près, mais que je connais pas plus que ça, et je pense qu'on est nombreux à. Si jamais vous avez envie de vous faire une petite virée historique de séries, les premières séries pionnières de l'époque, on avait I Love Lucy de 1951. Qui est un des tout premiers sitcoms modernes qui a un peu apparemment structuré comment les sitcoms allaient être, quoi. Okay. Tellement ça a fonctionné. Et on a The Twilight Zone, donc ça j'en ai beaucoup plus entendu parler, mais pareil, évidemment je n'ai jamais vu, 1959, qui est donc une série qui mêle science-fiction, horreur et morale sociale. Donc là c'était les tout débuts des séries. Dans les années 60.
Mais Twilight Zone, c'est pas la cinquième dimension ?
Bah si, je te dis, c'est de la science-fiction.
Ah oui, oui, bah c'est ça, oui, oui, c'est connu ça.
Oui, oui, c'est archi connu. Mmh. Oui, non, mais les deux, apparemment, les sitcoms, de toute façon, il y a une culture qui est vachement moins connue, je trouve, des sitcoms que
Il y en a plus, ouais.
Ce qui est drôle, parce que ça a toujours été là, quoi.
Ouais.
Donc, bref. Les années, du coup, 60-80, les séries, du coup, évidemment, se multiplient avec la consommation croissante, et etc. Donc, on a de plus en plus de sitcoms, de drames familiaux, de séries policières, etc., etc. Mmh. On a aussi, au Brésil, du coup, les telenovelas qui explosent, qui
dangereux.
et donc du coup à ce moment-là, les États-Unis n'ont plus un coup d'avance comme ils pouvaient en avoir avant, et les autres pays mondiaux aussi, les autres pays du monde, je veux dire, se développent chacun leur culture, leur série culte nationale, etc., etc. Année 90, pouf, deuxième grosse étape si on puisse dire, parce que on a l'explosion des chaînes câblées et des chaînes spécialisées, ce qui fait encore plus de propositions,
oui,
d'offres,
oui.
De sous aussi, parce que pour les avoir il fallait payer, donc on peut aussi du coup payer plus de production pour créer plus de séries, enfin bref. Donc là voilà, ça nous donne l'apparition des séries plus longues qu'on connaît aujourd'hui, plus narratives, plus cinéma dans la tonalité, notamment les Sopranos, The Wire, etc., etc. Et les années 2000-2020, eh bien c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de la télévision, c'est-à-dire aujourd'hui, car Netflix pointe le bout de son nez, même s'il a été démocratisé, popularisé et vraiment, perfectionné. Il me semble que dans les années 2010, fin 2010, mais voilà, donc on a les plateformes de streaming qui bouleversent la donne et qui nous amènent là où on en est aujourd'hui, avec toute la diversité de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Surtout que Netflix, à la base, c'est...
un service de location.
De location DVD, effectivement.
Oui, 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 je sais bien, mais c'est pour ça que je parle de fin 2000. Ouais, de fin des années 2000.
Oui, qui n'ont pas... Ouais, effectivement.
Voilà, voilà. Donc c'était le petit... Le petit point historique de d'où viennent les séries, comment est-elle existée. Et du coup, pareil, je me suis posé la question de... Mais attends, parce que du coup, par rapport au film... Parce que donc moi, je rappelle, je suis... je sais même plus ce que je suis. Je suis une milléniale, je crois.
Tu sais même plus ce que je suis.
Je sais plus ce que je suis.
Non, t'es pas milléniale, t'es génération Z.
Je suis génération
c'est
Z.
C'est avant 97, les milléniales.
Ah, c'est avant moi.
C'est avant 97.
Ok, donc je suis Gen Z. Très bien, bref, donc voilà, 98, donc moi je suis née, tout ça existait déjà, pas Netflix, j'ai vu tout ça, mais je me suis posé donc la question, parce que moi depuis que je suis née, les films à la télé, c'est normal, c'est comme ça que je connais la télévision depuis que je suis petite, Donc je me suis demandé, mais quand est-ce qu'on a commencé à avoir du coup des films? Parce que là, tout ce que j'en comprends, la télévision a connu les séries avant de connaître les films diffusés à la télévision.
Les téléfilms, tu veux dire?
De quoi?
Les téléfilms ou les films diffusés à la télévision?
Les films diffusés,
le cinéma diffusé à la télévision.
Le cinéma diffusé à la télévision, tout à fait.
Okay.
Et y compris les téléfilms, parce que les téléfilms, ça demandait quand même aussi une certaine production, etc. etc.
Oui.
Donc on favorisait les séries aux téléfilms. Bref, voilà. C'était le petit point historique. J'espère que vous avez appris des petites choses et qu'on sait de quoi on parle. J'ai été regarder aussi éventuellement des petits classements encore aujourd'hui des meilleures séries de tous les temps et ça me fait rire parce que j'ai un peu l'impression que ça fait quand même des années que les mêmes reviennent et on voit quand même qu'il y en a qui ont particulièrement marqué parce que 30 ans après maintenant, ça y est, ça fait 30 ans quasi, elles sont encore dans le classement des meilleures séries du monde, enfin des meilleures séries de tous les temps. Et quand je dis du monde, c'est évidemment de la culture occidentale parce qu'on a bien d'autres cultures.
Les États-Unis, tu veux dire? Toutes les séries sont américaines, là.
Oui, t'as raison, des États-Unis, complètement.
Meilleure série du monde des États-Unis.
D'un impact mondial, c'est pour ça que je dis ça. Bref. Donc, on a Breaking Bad.
Ouais.
Je trouve ça... Alors, c'est fou que ce soit encore une des séries considérées comme une des meilleures, voire la meilleure de tous les temps. Après, ça dépend vraiment de...
Ça dépend des goûts de chacun.
Oui, oui, ça, c'est pas qu'une question de goût, mais ça dépend aussi de à qui on se réfère, etc. Donc Breaking Bad, Les Sopranos, The Wire, Mad Men et Succession.
Ouais.
Donc là, c'est vraiment un classement sur les séries qui ont été le plus appréciées par la critique, les professionnels, etc. C'est pas juste une question de quelles sont les séries qui ont le mieux fonctionné.
Oui. Okay.
Et effectivement, moi, The Wire, ça fait juste 20 ans qu'on m'en parle constamment, Les Sopranos aussi. Je n'ai toujours pas regardé personnellement.
J'ai regardé le premier épisode des Sopranos. Il faut que je regarde la suite.
Par contre, effectivement, du coup, en audience, bon, on connaît tous, hein, c'est les séries Netflix aujourd'hui, hein, en 2025, donc évidemment, Squid Game en première, Stranger Things, Wednesday et Dahmer. Voilà, donc ça c'était Rotten Tomato qui m'a donné ce petit...
Ok, et bah on le remercie.
Le site de Rotten Tomato si vous ne connaissez pas. Bref, du coup, voilà. Et en France, oui, j'avais eu ça, pardon, en France, selon Allociné,
ouais.
En 2025, la meilleure série française.
Je sais pas, peut-être Lupin.
Non, n'importe quoi, meilleure série française, Lupin, c'est pas français.
Lupin, c'est complètement français.
C'est développé par
c'est Gaumont,
français, etc. Ah, pardon, la autant pour moi, je pensais que comme c'était Netflix, ça rentrait pas dedans.
Non, bah non,
mais
c'est
non.
En dedans. Donc en télé.
C'est Bref 2.
Ah, Bref 2, ok.
Bref. Voilà, c'était le petit point histoire, remise en contexte, etc., etc.
Ok.
On va passer maintenant juste sur la partie 3.
Partie 3.
La partie chill de « On vous parle de séries qui nous ont particulièrement marqué, pourquoi, qu'on vous conseille ou pas, etc., etc. » Je vous propose, pour ce faire, de nous écouter « Eulogy ».
Ouais.
De. J'ai encore fermé mon truc, désolé.
Kyle Dixon.
Oui.
Et Michael quelque chose. Désolé pour le mon famille.
Bon, on vous dira ça tout à l'heure. Donc, la BO de Stranger Things, à tout de suite. bonsoir de nouveau, vous êtes avec les voisines sur RVE, parle de série.
Meilleure émission.
J'espère que vous avez apprécié, même si cette musique est loin d'être la plus gay, mais elle s'appelle Eulogy, donc bon, forcément, ce qui veut dire en français...
Je sais pas.
Éloge funèbre.
Ah, et bah c'est sympa.
Donc voilà, et donc c'était la bande originale de Stranger Things.
Oui. T'as pas cherché le nom des compositeurs.
Qui a été composé par Kyle Dixon et Michael Stein.
Okay,
peut-être
d'accord.
Stein.
D'accord.
Voilà. Donc Stranger Things, Thomas. Parlement, parce que tu as un rapport, je crois, un peu plus
Stranger Things,
un peu plus fort que moi à cette série.
Mais Stranger Things, tu parlais tout à l'heure de l'avènement des plateformes, des séries de plateformes, et du coup les plateformes à leur création, en fait, elles ne faisaient qu'acheter des séries qui avaient été commandées et produites par des chaînes de télévision. Mais du coup les plateformes de streaming ont vite compris que pour leur renommée et même en termes de finances et de garder un public et de créer une marque, ça serait beaucoup plus efficace en fait de commander eux-mêmes leur série. Et donc Stranger Things est l'une des premières, parce qu'avant je disais la première, mais je crois que ça se tape avec Narcos. Mais la différence avec Narcos, c'est que Narcos n'a pas été créé pour Netflix, et Netflix ont racheté les droits pour les saisons d'après. Comme La Casa de Papel par exemple,
mais
ça n'a pas été créé par Netflix, mais Netflix, après la saison 1, a racheté les droits et a financé les deux saisons d'après. Et du coup, Stranger Things a été complètement commandé dès le début par Netflix, ce qui en fait que c'est...
Oui, c'est la première série originale Netflix.
C'est la première série originale
Netflix,
Netflix, exactement. Elle a fonctionné du feu de Dieu, comme on dit.
Mm-hmm.
Et sans Stranger Things, Netflix, et d'ailleurs, j'ose le dire, toutes les plateformes, n'auraient pas autant explosé et pris en termes... du poids dans la création.
Oui, c'est ça.
Si ça avait été une série, en tout cas, qui n'aurait pas eu la qualité de Stranger Things.
Parce que ça s'est passé du stade de plateforme de streaming, donc de distributeur, à créateur.
Ouais. Exactement. Et donc Stranger Things, pour plein d'autres raisons aussi, c'est une série qui, dans sa première saison, prend des risques, parce que de toute façon, ils ne pouvaient faire que ça, Netflix, ils ne pouvaient que prendre du risque à l'époque. En prenant, du coup, en s'inscrivant dans quelque chose de très nostalgique, en prenant dans ses personnages principaux des enfants, donc du coup, qui n'ont quasiment jamais tourné nulle part, qu'on a quasiment jamais vu.
Qui sont débutants, ouais.
Qui sont des débutants, et de prendre derrière, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de thunes, donc prendre des acteurs qu'on dirait, et je m'excuse d'en veux, mais qui étaient un peu finitos.
Quoi ?
Winona Ryder. Était totalement
fini. Ah, d'accord, des acteurs adultes
oui.
Qui étaient.
Winona Ryder, David
Harbour,
ils étaient complètement. Ils,
oui,
c'était
d'ailleurs.
Pas cher quoi de les avoir.
Ouais.
Et derrière, ça a totalement en plus servi à la nostalgie parce que les plus adultes et les plus âgés.
Mais parce que Stranger Things, pour ceux qui ne connaissent pas, se passe dans les années 80. Enfin, dans les années 80, dans un
exactement.
Monde qui a l'air de se passer dans les années 80.
Exactement, et Winona Ryder, c'était quand même une star des années 80 avec Beetlejuice. Enfin, les films de Tim Burton, uh-huh. Effectivement, avec aussi Les 4 filles du Docteur March.
Je dis peut-être des bêtises pour Edouard Main d'Argent. Je crois que c'était elle.
Peut-être que c'est elle. En tout cas, Beetlejuice, c'est sûr que
oui,
c'est elle.
Beetlejuice, c'est sûr.
Et derrière, voilà, ils l'ont fait revenir. Et puis, elle a regagné en popularité, comme David Harbour aussi.
Non, c'est bien elle dans Edouard Main d'Argent.
Ok. Bref, du coup, Stranger Things, en fait, était un peu un... Moi, ce que j'aime beaucoup dans Stranger Things, c'est que c'était un test et que c'était une prise de risque. Alors, c'est pas une prise de risque totale, parce que ça se base quand même sur des... Enfin, c'est très cliffhangeresque, le début de Stranger Things.
Les codes de
ouais.
Chaque épisode, etc. C'est
mais, en tout cas, c'est, selon moi, des codes qu'on avait très très peu vus dans les séries. Et justement, quand tu y réfléchis bien, ça ne pouvait que marcher. C'est des... énormément de clins d'œil au cinéma du nouvel Hollywood, comme on dit, des années 70-80, Spielberg, Zemeckis et tout ça.
Mm-hmm.
Et forcément que ça allait marcher au niveau de la nostalgie et tout ça, mais c'est vrai que c'est bizarre à dire qu'à l'époque, en 2014, à l'époque, c'est très peu de gens y croient. D'ailleurs, les frères Duffer qui ont créé Stranger Things, ils se sont fait refuser de partout
oui.
Leur série. Alors après, il faut savoir que Netflix a mis... comment il s'appelle, le réalisateur de La Nuit au Musée.
Aucune idée, c'est toi qui connais ça, c'est toi l'expert.
Je suis désolé, je l'ai plus. En tout cas, qui a été créé. Ah purée, c'est pas Sean quelque chose.
Finis ta phrase.
Et donc qui a allé sur
Sean Levy
exactement, qui les a aidés sur la création et qui a justement amené toute cette patte un peu nostalgie des années 80 et tout ça. Mais le scénario science-fiction, tout ça, c'est les Duffer Brothers qui l'ont écrit. Et donc c'était une vraie prise de risque à l'époque. Après, derrière, effectivement, bon, voilà, on va pas se mentir. Même si moi, je suis beaucoup plus honnête et objectif, je pense, pour dire que les 4 premières saisons sont des bonnes saisons. Et qui vont chercher beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens.
Il y avait une identité qui était hyper forte. C'est ça aussi qui a marqué avec Stranger Things, c'est qu'il y a vraiment une ambiance, ouais. Une identité. Et c'est notamment aussi ce qui a relancé tout ce délire autour des années 80, etc.
Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer.
Ça a été bien fait. Ouais. Si ça avait pas été bien fait, ça aurait pas pris.
Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer, je trouve, à tort la saison 3 et la saison 4. Parce que la saison 3 est beaucoup trop pop, beaucoup trop colorée, tout ça. Mais bon, c'est une prise de risque et c'est un. Après, on aime ou on n'aime pas, voilà. Et la saison 4 qui vont un petit peu changer. Et la saison 4 va être beaucoup plus horreur, un peu avec la création du monstre Vecna, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un méchant qui fait peur, quoi, physiquement. Après, la saison 2.
C'est un monstre méchant, antagoniste, extrêmement connu de l'univers de Donjons et Dragons, donc il fallait bien qu'il le réussisse. Réussisse.
Ouais.
Parce que je rappelle que Stranger Things tire beaucoup, beaucoup de choses aussi de Donjons et Dragons, parce que les années 80.
Ouais, et c'est surtout aussi que, à la base, Stranger Things, il faut le rappeler, quand même une série d'horreur. Hein,
oui.
Qui du coup ils voulaient faire autre chose dans la saison 3, mais ça n'a pas forcément bien marché, donc ils sont revenus à la saison 4. Après, on va passer vite, la fin elle est ratée, voilà, la saison 5 elle est ratée, voilà. On va passer... Non mais je veux dire, ça sert à rien de le dire.
J'ai fait partie des croyants de la Conformity Gate à non, tel point voilà. J'étais déçu et que je ne pouvais pas croire qu'ils nous avaient servi ça comme dernière saison.
Bien sûr, mais j'ai envie de dire, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, en fait, ça aurait été, je pense, un peu plus facile à accepter si la série était sortie l'année d'après. La saison 5 était sortie l'année d'après la saison 4. Mon problème, c'est qu'il y a eu 4 ans entre les deux.
Ouais. Bah, évidemment, les attentes de tout le monde étaient au max. Hein.
Ouais. Après, ce qu'il faut aussi se dire, et ça, beaucoup de gens oublient, c'est qu'elle a été écrite.
Si sortait demain et que c'était nul, en fait. Imaginez.
Et non, mais ce que je veux dire, c'est que. La saison 5 elle s'est écrite aussi pendant la grève des scénaristes d'Hollywood, tout ça, bah, tout ça, on a tendance à l'oublier.
C'est pour ça qu'ils ont mis autant de temps aussi à l'écrire,
ouais, bien
tout.
Sûr.
Il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en compte, hein. On a eu le Covid, on a eu la grève des scénaristes, enfin bon, on peut comprendre pourquoi ça s'est arrivé là où ça en est, mais
et je pense que le vrai problème
en fait, le vrai problème
de la fin, et après je finirai sur ça, de Stranger Things, c'est qu'ils n'ont pas respecté ce qui était la série dès le début, c'est-à-dire de prendre des risques. Et en fait, c'est une fin qui ne prend pas de risques et qui, du coup, est un peu difficile à avaler.
Bah, puis plus que ça, ils n'ont pas respecté leurs propres règles de leur propre univers.
Non, mais ça,
s'il n'y a pas de cohérence dans un monde que tu as établi, mais c'est foutu, c'est fini.
C'est un message aux scénaristes, aux producteurs, aux réalisateurs et tout ça. C'est qu'à un moment donné, quand une œuvre en globalité...
C'est toujours des scénaristes, réalisateurs et producteurs de Stranger Things.
Non, 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 de tout le monde.
Producteurs, réalisateurs, scénaristes ou des gens qui voudraient l'être.
Je pense que la pire chose.
C'est sa take.
La pire chose à faire.
En tant que même scénariste.
C'est de faire quelque chose qui est censé plaire, et de rater. Alors que si vous tentez de faire quelque chose, de prendre des risques et que vous ratez, je pense que les gens vous en voudront moins. En tout cas, moi, je vous en voudrais moins et mon avis importe énormément, bien évidemment. Voilà.
Bien sûr.
C'était la morale de fin.
Très bien, c'était ton petit comment on appelle ça.
Eh ben, ton réquisitoire,
tout à fait. Très bien. Eh ben, je vous propose une nouvelle petite coupure musicale.
Oui, bah bien sûr. Ah, oui.
Donc on va écouter Paint It Black. Et pas de qui vous pensez, et non, de Ramin Djawadi, car nous sommes sur le thème des séries, et donc c'est la reprise réécriture pour la série Westworld. Je n'ai vu que la première saison, il faut que je continue, mais la première saison, je l'ai vue 3 fois, elle est incroyable. Et Ramin Djawadi, compositeur de Game of Thrones, notamment.
Oui.
Voilà, un compositeur qui pèse un petit peu et qui nous a habitués à des choses bien sympas. Paint It Black, Ramin Djawadi, à tout de suite. Et bonsoir de nouveau, c'est la fin de l'émission.
Quelques
petites minutes avec nous, c'était Painted Black, la reprise des Rolling Stones. Enfin non, la...
non je
ça n'a pas de
les
sens.
Rolling Stones, mais c'est la reprise
la
de...
Ramin Djawadi,
ouais.
Des Rolling Stones, c'est comme ça qu'on dit.
C'est comme ça qu'on dit.
J'espère que vous avez apprécié, moi j'aime énormément et je trouve que c'est une des musiques de la série qui retranscrit extrêmement bien une palette d'ambiance de la série. Je
okay.
trouve que ça met vraiment dans le mood de ce qu'on ressent quand on voit la série et okay. voilà. Donc allez regarder au moins la première saison de Westworld parce que j'ai ouï dire que les deux dernières saisons je crois sont de plus en plus décevantes et de moins en voilà. moins bien
ça
et
arrive,
bon, c'est quand même dommage quand c'est des longues séries j'entends, quand c'est des séries plus courtes. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est de la science-fiction. Peut-être qu'ils ne savaient pas quoi faire et où aller une fois passé un certain point, mais la première saison est incroyable et j'essaye de convaincre Thomas de la re-regarder. Un petit pitch rapide, c'est ça se passe dans un parc avec des robots qui ne savent pas qu'ils sont des robots et qui reproduit le Far West.
Okay.
Donc c'est très 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 cool. On switch entre les équipes du parc qui donc elles évidemment sont dans la vie 2015 à l'époque 2010 et les robots qui vivent dans le Far West avec les visiteurs qui sont aussi là. Bref, c'est extrêmement stylé. Tout le plot okay. est trop bien et vraiment c'est trop bien. Et la musique donc vous l'avez entendu est extrêmement qualitative. Voilà voilà. Thomas, pour finir
oui.
cette petite émission chill qu'on espère qu'il vous a plu sur le retour avec ces petites musiques qui changent de ce qu'on peut entendre d'habitude, est-ce que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 séries à
non.
recommander?
Non, je vais aller, je l'ai déjà dit ici, mais regardez Dark si c'est pas fait, bien évidemment.
Dark c'est série suédoise.
Allemande,
pas du tout.
Il faut respecter l'Allemagne. Ah, la série allemande.
On l'a regardé en
Dark
en
sur Netflix, bah bien sûr.
Pardon.
Dark sur Netflix. Et puis bien sûr Pluribus, effectivement. Allez
la
vous perdre. Je veux dire, allez vous
Vinci,
perdre dans Pluribus.
Très bien, très bien.
Et je donnerai pas de justement le plot, je donnerai pas de synopsis parce que c'est. Je pense que c'est encore mieux
c'est
si on n'a pas.
De synopsis. La série.
Je pense que c'est encore mieux si on n'a pas de synopsis.
Très bien. Ben moi pour ma part je pense que je vous en ai peut-être déjà parlé aussi mais je vous recommande Fringe que j'ai fait découvrir à Thomas là il y a pas longtemps, qu'on a fini il y a un mois, un truc comme ça, qui est une de mes séries préférées depuis que j'ai 14 ans et ça n'a pas changé, je l'aime toujours autant. Elle a des défauts mais je trouve qu'ils sont largement passables. La première saison faut s'accrocher un peu parce qu'ils savent pas trop où ils vont et on est beaucoup plus sur une série policière au début parce qu'ils dropent des éléments de scénario tous les 6 épisodes approximativement.
Oui, mais c'est bien.
Dans la première saison, alors qu'à partir de la saison 2 bah là c'est bon, on est dans le gros du gros et ça s'accélère et il y a une vraie histoire tous les épisodes quoi, ce qui
ouais.
était déjà le cas dans la saison 1 mais plus espacé. Bref, Fringe, si vous aimez donc la science-fiction, les pseudo-sciences puis les histoires d'amour sous n'importe quelle forme humaine de filiation et d'amour entre êtres humains quoi. Voilà, c'était Les Voisines, passez une très bonne soirée, il y a l'Happy Hour à 21h
oui.
ce soir comme d'habitude. Passez un très beau week-end et on se retrouve dans 2 semaines.
Bisous, bisous.
Ciao.